l'amour que nous devons avoir pour Dieu, ben, on va parler de l'amour que Dieu a pour nous. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a tellement de choses à dire, mais on ne va pas pouvoir faire ça tout ce matin. Et on va lire deux versets, d'abord dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Je vais vous faire travailler, il y a quelqu'un qui va nous le lire.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aimé est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés.
Stop, on va s'arrêter là, verset 10. Et puis Jean 3,16, alors peut-être qu'on n'est pas obligé de le lire, parce que je crois qu'on le connaît tous par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ça dépend des versions que vous avez, peut-être.
Mais quiconque ne reçoit pas le Fils.
Pardon ?
Mais celui qui ne croit pas au Fils,
oui.
Il verra pour la vie éternelle.
Exactement.
Toute la carrière de Dieu sera sauvée.
Alors, on sait intellectuellement que Dieu nous aime. On le sait, on l'a entendu un jour, quelque part dans une pièce ou je ne sais pas, mais la question c'est de savoir, est-ce que nous le vivons, cet amour de Dieu ? Hein ? Parce qu'on peut le savoir, mais on peut peut-être ne pas en profiter pleinement. Et j'aimerais ce matin justement qu'on prenne le temps un peu d'observer cet amour de Dieu pour moi, et essayer de voir un peu, alors rapidement, hein, mais les facettes de cet amour de Dieu dans ma vie et au quotidien. Et pour ça, il faut s'arrêter. Que si je veux contempler l'amour de Dieu, c'est pas dans une voiture, c'est pas au travail, c'est pas avec les enfants, il faut que je m'arrête. Et c'est bien, vous êtes arrêté ce matin, donc on va en parler. Et pour ça, il faut aussi sonder notre vie, hein, et voir comment Dieu nous aime vraiment. C'est un vrai travail, hein, des fois, d'essayer de comprendre l'amour de Dieu pour nous. On va contempler cet amour, justement, de Dieu, et on voit trois choses, hein. On va d'abord voir l'amour de Dieu dans le passé, parce que Dieu nous a aimés avant même que l'on naisse. L'amour de Dieu aujourd'hui. Et puis l'amour de Dieu dans l'avenir. Alors quand on s'intéresse à l'amour de Dieu dans le passé, on sait que Dieu nous a aimés dès le commencement. Personne n'était là. Pas de terre, rien du tout. Dieu m'aimait déjà. Pas formidable, ça ? Hein ? C'est extraordinaire. Dieu a créé toutes choses bonnes d'abord, et puis il a donné une terre et des cieux, un jardin pour l'homme, pour le cultiver. Alors, je ne sais pas si vous êtes des agriculteurs ou des cultivateurs, mais on avait du travail, hein. Souvent on dit que c'est hors du jardin qu'on devait travailler, c'est pas vrai. Hein. Mais Dieu avait tout fait bien, et il avait mis l'homme là, et on aurait dû être heureux. Il a mis tout son amour en cela, vraiment tout son amour pour faire ce jardin d'Éden. Quelqu'un écrit « L'amour est la perfection de la nature divine par laquelle il est éternellement poussé à se communiquer lui-même. » Peut-être que Dieu nous a créés parce qu'il avait envie de communiquer cet amour à quelqu'un. Il avait besoin de communiquer cet amour. Et aujourd'hui, il veut nous communiquer cet amour. Et il a permis donc, dans ce jardin, d'une relation homme-créateur. Et ça, moi, j'aurais bien voulu être à la place d'Adam. Hein. Bonjour Dieu, ça va, fait beau aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si ça se passait vraiment comme ça, mais il y avait une relation là. Et il semblerait que Adam discutait avec Dieu. Quelle intimité, non ? On est un peu jaloux. Hein. Non, moi je ne suis pas jaloux parce que je peux toujours le faire. Je peux toujours prier. C'est toujours la même chose. Je ne sais pas s'il voyait Dieu forcément. Il est dit qu'il s'entendait, hein, mais il n'est pas dit forcément qu'il se voyait. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir toujours la même intimité, même si je pense que j'aurais quand même préféré le jardin d'Éden. Hein. Ah bah, on verra ça plus tard. Et dans ce bonheur parfait, qu'est-ce qu'a fait l'homme ? Il a péché. Il a désobéi. Hein, et il a chuté. Il a brisé ce paradis en péchant parce qu'il ne s'est pas contenté de l'amour de Dieu. Et on ne va pas leur jeter la pierre parce que bien souvent, dans nos épreuves, nos difficultés, on ne se contente pas de l'amour de Dieu. Plutôt, on l'accuse de certaines choses. Je suis comme vous, hein. Je sais de quoi on parle là. On n'est jamais content de ce qu'on a et on voudrait toujours plus. Et Dieu, gna 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 gna. Et finalement, je n'accepte pas l'amour de Dieu. On aurait pu nous mettre un après l'autre dans le jardin d'Éden. Chacun d'entre nous, à un moment, je pense qu'on aurait chuté parce qu'on ne se contente pas de ce que Dieu nous donne. L'amour de Dieu, lors de la chute, malgré que l'on ait chuté, Dieu a continué à nous aimer. Parce qu'il avait déjà prévu de toute éternité Christ qui allait venir pour mourir pour nos péchés. On peut se poser la question, mais pourquoi il a accepté de créer l'humanité en sachant qu'ils allaient pécher, hein? Franchement, moi je ne le ferai pas. Il nous répondra un jour pour ça. Mais il avait déjà prévu la solution bien avant qu'on désobéisse. C'est extraordinaire ça, quand on y réfléchit un petit peu. C'est l'amour de Dieu. Et puis quand Adam a péché et Ève, hein, ils ont remarqué qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a recouverts. Il a recouvert cette nudité. C'est le premier sacrifice d'animaux, hein, qui a eu lieu, justement. Et on voit encore là l'idée de sacrifice pour couvrir le péché de quelqu'un. Et puis il va les chasser de l'Éden. C'est dégueulasse. Pourquoi il a chassé de l'Éden? Non mais je réagis comme les hommes, c'est pas ma réponse à moi, hein, mais je fais exprès. Hein? Parce que s'il ne nous avait pas chassé d'Éden, il y avait ce fameux fruit qui donnait l'éternité. Et moi, Adam, je serais vite allé en manger tous les jours pour être éternellement dans mon péché. Et finalement, on n'aurait jamais connu le salut. Ah oui. Donc Dieu, dans son amour, a dû nous chasser, nous punir, pour que justement, à un moment, on meure, mais qu'on accepte aussi Jésus-Christ dans notre vie, et qu'on puisse de nouveau recommencer cette relation avec Dieu. Des fois, Dieu fait des choses qui nous semblent un peu injustes, comme j'ai dit, mais qui finalement, avec le temps, sont finalement très bonnes pour chacun d'entre nous. Alors, il y aura peut-être des épreuves dans votre vie, et vous allez râler auprès de Dieu, et finalement, c'est quelque chose de bon pour vous, hein, et pour moi. Puis on voit ensuite l'amour de Dieu, hein, dans l'histoire du peuple d'Israël. Hein. Dieu a choisi son peuple. Alors, ne me demandez pas pourquoi Israël et pas la France. Déjà, il n'y avait pas la France à l'époque. Mais Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Et il a démontré qu'il voulait une relation avec les hommes. Hein. Alors, il leur a donné la loi pour leur dire voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est bien, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire ou pas. Il y avait la conscience, éventuellement. Et puis, il voulait instaurer une théocratie. C'est quoi une théocratie?
C'est du gouvernement par Dieu.
Par Dieu, hein, c'est Dieu le président de la République, on pourrait dire. Et il l'a été pendant un certain temps. Alors là, on aurait dit, ben, chouette, tout va aller bien, maintenant que c'est lui qui est notre Dieu et notre président. Hein. Il a démontré aussi son amour par sa puissance, puisqu'il venait de les sauver de l'Égypte. Hein, ça faisait plus de plusieurs siècles qu'ils étaient là en esclavage, et il les a sortis, il les a protégés contre les nations, et une fois sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Ils ont murmuré. On ne se contente pas encore de l'amour de Dieu. Et Dieu a continué à les aimer, même s'il les a punis, il a quand même continué à les aimer. Il a démontré son caractère aussi avec ce peuple, hein, son amour, sa sainteté aussi. Je trouve qu'ils n'avaient peut-être pas compris à ce moment-là. Sa justice, parce que amour et justice sont, hein, complètement imbriqués. Sa patience. Je pense surtout à Moïse, hein, qui a dû mener ce peuple. Hein, donner jamais ce peuple, moi j'en veux pas. Hein. Il a dû souffrir. Mais au travers de Moïse, on voit toute la patience de Dieu. Mais Dieu a aussi puni le péché. Dans son amour, il a puni aussi le péché. Il n'a pas laissé faire. Aujourd'hui, c'est nous, le peuple de Dieu. Hein. Ce n'est pas les Juifs, c'est l'Église. Et c'est plus à former l'Église. Alors, elle n'est pas grande aujourd'hui, mais il y a deux formes d'Église. Hein. Il y a l'Église locale, c'est là où nous sommes. Et puis, il y a l'Église universelle. C'est tous les chrétiens depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça fait du monde, quand même. Il a formé son peuple. Et pour cela, évidemment, il a fallu que Jésus aille sur la croix pour que nous puissions être réunis. Hein, et vivre cette Église. Aujourd'hui, Christ est le chef de l'Église. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un pape, c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et il démontre qu'il nous aime toujours, puisqu'il nous protège. Parce que quand on voit un peu le parcours de l'Église, hein, au début, ils étaient tous martyrisés, mis au lion, tués, tout ça, et aujourd'hui, l'Église existe toujours. Dieu a démontré son amour, sa protection, et l'Église continue et persévère, même si elle devient de plus en plus bizarre. Hein, mais bon. Et puis par son Saint-Esprit, il nous aime aussi, il nous a offert un consolateur. Jésus aurait pu repartir auprès du Père et nous dire, ben non, voilà, hein, vous m'avez entendu, ça fait 3 ans que je vous parle, vous avez compris. Hein. Ben non, il nous a laissé un consolateur. Quand on pleure de temps en temps, il y a quelqu'un qui nous pose la main sur l'épaule, c'est le Saint-Esprit, hein, qui nous sanctifie, qui veut aussi faire un travail en nous, nous transformer. Dieu aurait pu nous sauver et nous laisser dans l'état où on était, et on serait toujours peut-être vraiment de gros pécheurs, mais le Saint-Esprit est là justement pour nous transformer, pour nous sanctifier, pour nous diriger. Merci Seigneur de cet amour et de cette idée aussi. Hein, il fallait y penser. Puis on voit aussi l'amour de Dieu qui s'est évidemment manifesté à la croix. Hein. Tout l'amour s'est concentré sur cette croix. Il a envoyé son Fils. Alors on l'a dit, c'était prévu de toute éternité. Et pour sauver tout simplement des hommes pécheurs. Personne méritait absolument cet amour de Dieu. Personne. Et surtout quand on était devant la croix, tout le monde criait après lui, hurlait, descend de ta croix, hein. C'était vraiment Dieu. Personne méritait cela, et pourtant il l'a accepté. Et le comble de l'amour, c'est qu'il a donné sa vie volontairement. Hein, on aurait pu se dire, il s'est fait choper par les pharisiens, ils l'ont mis sur la croix. Mais eux, ils n'ont fait qu'obéir au plan de Dieu, tout simplement, hein, même s'ils restent responsables. Mais c'est lui qui a donné sa vie, hein, puisqu'il dit à un moment, je t'offre ma vie, hein, je te remets mon esprit. Ce n'est pas la mort qu'il a pris, c'est lui. Enfin, c'est pas suicidé, on s'entend bien. Hein, mais il a donné sa vie volontairement pour des gens comme moi et comme vous, en pensant à moi à ce moment-là, qui était dans mon péché, dans le bourbier de mes bêtises et de je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, il pensait à moi, tout simplement. Et il m'a aimé. Et puis on voit la grandeur de cet amour aussi, parce que lui, il a accepté de quitter sa gloire. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans un palais. Non, peut-être pas. Vivez dans un palais, les anges vous servent. Vous êtes là, le Fils de Dieu, avec une gloire immense. Puis on vous dit, ça te dit d'aller sur la terre, de revêtir un corps, de souffrir la douleur qu'ils ont, etc. Ça vous branche ? Ben, Jésus l'a fait. Il l'a fait pour moi. Il a quitté sa gloire pour revêtir notre humanité. J'imagine le changement qu'il a dû avoir. Mais il l'a fait parce qu'il m'aime, pas parce qu'il s'ennuyait. Hein. Il a accepté l'humiliation aussi. Lui qui est le roi des rois, une gloire qu'on ne peut même pas imaginer, il a accepté tout simplement de se laisser faire par les petits hommes. Excusez-moi pour l'adjectif petit, mais c'est ça. Hein. Lui, le roi des rois, il s'est laissé faire par nous, les petits hommes. Quand même formidable. Il faut quand même aimer, hein, pour arriver à se laisser faire comme cela. Mais il savait évidemment ce qui allait se passer après. Donc avant même ma naissance, avant même que je fasse mon premier cri et que je prenne mon premier biberon, hein, Dieu m'aimait déjà et il avait tout préparé, non seulement pour mon salut, mais évidemment pour ma vie aussi. C'est formidable, non, quand on y pense. Non ? Un peu, ouais. Puis l'amour de Dieu au quotidien. Dieu vous aime tous les jours ?
Oui.
Un petit peu, passionnément, à la folie ? Ouais. Il nous aime d'abord parce qu'il assure nos besoins quotidiens. Vous allez manger tout à l'heure. Il y en a qui n'ont pas mangé ce matin. Mais Dieu vous aime quand même. Ça, c'est votre faute. Mais il assure notre pain quotidien. Tous les jours, j'ai de quoi manger, plus ou moins. Ça dépend où je suis aussi. Mais il subvient largement à ma nourriture. Il faut penser à tous ces gens qui n'ont rien aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas leur donner, mais c'est l'homme qui leur retranche bien souvent. Il ne faut pas accuser Dieu dans ce cas-là. Il nous donne aussi le nécessaire, puisqu'il parle dans Timothée de nourriture et de vêtements. Et ça devrait nous suffire. Il ne parle pas de maison, il ne parle pas de jardin, il ne parle pas d'iPhone ou je ne sais pas quoi. Il parle de nourriture et de vêtements et ça serait suffisant normalement pour nous. Dieu nous donne beaucoup plus, non ? Et on râle. Et on n'est pas content. Et je ne suis pas content des fois. Et pourtant. Et dans son amour, je pense aussi que des fois, il permettra qu'on passe des situations difficiles pour nous apprendre à être content. Quand vous n'avez pas de travail, quand les finances sont difficiles, vous êtes content. Pas dans le sens joyeux, mais contenté du peu que nous avons. C'est ça qu'il veut dire, hein. On ne sera jamais heureux forcément dans des situations difficiles. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même, j'ai juste de quoi vivre suffisamment, hein, pour aller de l'avant. Et puis Dieu sait très bien mes besoins et donc il va y pourvoir aussi. Mais être content, si seulement ce monde pouvait se contenter du peu que Dieu veut nous donner. Il y aurait moins de morts, il y aurait moins de guerres. Puis cet amour au quotidien, il se renouvelle par exemple dans son pardon. Dieu se plaît à me pardonner chaque fois que je me présente devant lui. Hein. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, dit 1 Jean 1,9, hein, à condition évidemment que nous nous repentions. Hein. Dieu ne pardonne pas juste pour pardonner. Il faut évidemment lui demander pardon. Mais je ne sais pas si vous en avez fini avec le péché, vous, moi pas. Et je pense qu'on va encore chuter, tomber, s'énerver, faire un tas de choses. Et si je demande sincèrement pardon à Dieu, il va me pardonner. Moi, au bout de 10 fois, je vous aurais dit, écoutez, vous me saoulez. Hein. Oui, non, mais parce que vous demandez tout le temps pardon, vous ne changez pas. Non, ben, Dieu me pardonnera autant de fois qu'il nous demande de le faire. Hein. 6 fois, 77 fois, ou je ne sais plus combien. 7 fois, 77 fois. Dieu ne rejette pas celui qui s'humilie. Celui qui s'humilie. Il y a une attitude de cœur quand on s'approche de Dieu et qu'on lui demande pardon. Et là, on voit toute la grâce de Dieu et le réconfort. Parce qu'on est faible. Hein. On est faible, mais Dieu veut toujours nous relever. Et à chaque pardon, ou à chaque correction, hein, eh ben on peut ressentir l'amour de Dieu. Quand Dieu nous reprend une petite taloche, hein, de temps en temps, parce qu'on fait des bêtises, ben on peut ressentir l'amour de Dieu, à condition de se laisser faire, évidemment. Hein. La question, c'est, est-ce qu'on a envie de se laisser pardonner ? Là, j'ai une petite histoire, je la trouve sympa. C'est par rapport à un père et un fils. Hein. Il y a bien des années de cela, un jeune homme s'était pris d'une violente querelle avec ses parents. Il avait commis des choses graves et était parti de sa maison paternelle en jurant de ne plus jamais y remettre les pieds. Cet éloignement, cette rupture a duré des années, Après maintes expériences douloureuses, il a écrit à son père pour lui demander pardon, pour lui demander s'il pouvait revenir à la maison. Mais ce qu'il avait fait lui paraissait si grave qu'il doutait que son père puisse lui accorder son pardon. Il a écrit dans une lettre: « Père, je rentrerai par le train qui passe au bout de notre jardin. Si tu veux m'accueillir, un linge blanc au pommier qui est au fond du jardin. Je verrai le linge et je saurai que je peux revenir. S'il n'y a pas de linge blanc, ben, je ne reviendrai pas. » À mesure que le train s'approchait, il était nerveux, angoissé, au point qu'un voyageur assis dans le même compartiment s'en est aperçu et lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Le jeune homme lui raconta son histoire en ajoutant « Le train approche de la maison et j'ai peur de regarder par la fenêtre, de crainte qu'à ce pommier, il n'y ait aucun linge blanc. » Le voyageur lui dit qu'il regarderait à sa place et, arrivé à l'endroit, le voyageur lui cria « venez voir, il y a un linge sur chaque arbre du jardin. » De peur que les fils ne manquent le signal de bienvenue, il avait mis, le père, des linges sur tous les arbres. Et je pense que c'est exactement la même chose quand on veut demander pardon à Dieu, c'est que des fois on doute peut-être qu'il puisse nous pardonner, mais lui, il nous accueille à bras ouverts. Et il ne faut pas se gêner, quoi que l'on ait fait dans notre vie, on en a honte, ça c'est clair, mais il m'accueille à bras ouverts. Puis son amour assure aussi notre transformation, il aurait pu nous laisser esclaves de notre péché. Et quand je dis esclave de notre péché, c'est dans la souffrance, dans la douleur, dans la difficulté. Et on aurait souffert comme ça tout le reste de notre vie. Mais lui, il veut nous transformer parce qu'il veut qu'on aille mieux. Quand Dieu ôte le péché de notre vie, nous sommes heureux. Alors, on s'était habitué au péché, on trouvait notre bonheur dans la télé ou je ne sais pas ailleurs. Mais quand Dieu enlève le péché de notre vie, il y a une certaine liberté qui s'installe et une joie et une paix qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est bien que Dieu le fasse, non ? Vous êtes heureux ?
Oui.
Ben, laissez Dieu faire Dieu dans votre cœur. C'est le travailler pour qu'il ôte tous nos défauts, tous nos péchés. Parce que ça, c'est ça qui va produire notre joie. Il nous veut saints pour notre bien, comme lui est saint d'abord, mais aussi pour notre bien. Parce que le péché nous fait du tort, parce que le péché nous attriste, hélas. C'est seulement quand on devient chrétien qu'on réalise ça. Quand on n'est pas chrétien, on fait comme les autres, on ment, on triche, on s'arrange. Ça pèse sur la conscience, mais bon, on vit comme cela. Mais une fois qu'on évacue tout ça de notre cœur, on va s'envoler d'un seul coup. Bah, ne vous envolez pas, restez là. Mais vous comprenez l'idée. Mais en tant que chrétien, il y a encore un tas de choses dans notre cœur. On ne le voit pas peut-être. Et le Saint-Esprit va travailler justement pour changer cela. Et quand nous, on freine justement le travail, en fait, on dit « je ne veux pas être heureux ». C'est ça en fait, tout simplement. Dieu veut changer ça pour que l'on soit de plus en plus heureux. Puis il nous assure aussi sa protection quotidienne. Vous connaissez tous Matthieu 28, 19 à 20. À l'effet de toutes les disciples des nations, etc. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Demain matin, il sera avec vous. Cet après-midi, il sera avec vous. Dans votre salle de bain, il est avec vous. Aux toilettes, il est avec vous. Enfin, je pense qu'il ne regarde pas. Mais j'exagère peut-être. Mais avec moi dans toutes les situations données. Même quand je pêche. Même quand je fais ce qui ne lui plaît pas. Il est là avec moi. Quelqu'un s'exclamait en parlant de Jacob. Vous connaissez Jacob ? C'était quoi son caractère ?
Trompeur.
Un grand trompeur. Quelqu'un s'exclame justement. Quelle expérience ! Jacob se sentait seul. On voit ça dans la Genèse. Et on voudrait ajouter, dit l'auteur, bien fait pour lui. Puisque c'est un trompeur et il a arnaqué pas mal de gens. Mais il était toujours accompagné par des anges et se trouvait en présence de Dieu lui-même. Il ne le savait pas. C'est pourquoi il rendit ce témoignage dans Genèse 28. Vraiment le Seigneur ici, mais je ne le savais pas. Et l'auteur de dire, je suis frappé quand je lis des anges de Dieu monter et descendre. Vous vous souvenez quand il a ce songe, il voit monter et descendre des anges. On aurait pu imaginer qu'ils descendaient d'abord de Dieu vers Jacob, mais non, ils étaient déjà avec Jacob, le fourbe, le menteur, l'escroc. Les anges étaient là avec lui malgré son attitude. Non pour approuver évidemment ses agissements, mais parce que le Seigneur avait dit, je ne te laisserai pas, oh que sa fidélité est grande. Dieu est avec nous même quand parfois on s'égare dans nos bêtises, etc. Alors les anges, il y en a peut-être, cherchez pas, vous les verrez pas, mais ils sont là, la Bible le dit en tout cas. Mais quoi que l'on fasse, dans quelle situation nous sommes, Dieu est avec moi. Formidable, non ? Maintenant, si on comprend qu'il est vraiment avec moi et que je suis dans une situation délicate, j'ai plutôt envie de demander pardon, parce que ça me bête. Mais on arrive à continuer des fois en sachant que Dieu est avec moi, ça ne me gêne pas, hélas. Le Seigneur veut nous protéger du monde, et de tout ce qui peut tuer l'âme, et dans l'épreuve, il veut aussi nous accompagner. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos... J'ai du mal à le dire des fois. Hein. Au-delà de nos forces. Hein. Ouais. Parce que des fois, on aimerait quand même dire, ben, ça, c'est la pire des épreuves que je peux vivre. Hein. Et les autres, ils ne vivent pas ça. Pourquoi moi? Ben, chacun en est différent. Et devant Dieu, ben, j'ai peut-être la possibilité, la force de vivre certaines choses que les autres ne vont pas vivre. Ne comparez jamais vos épreuves. C'est idiot, complètement idiot. Hein. Dieu a donné des forces à certains, plus à d'autres, moins à d'autres. C'est sa volonté, laissons-le faire. Puis il prouve son amour aussi dans la relation qu'il veut avec nous, une relation vivante. Hein. Comme on l'a dit au début, je peux lui parler. Est-ce que je lui parle beaucoup? Je ne sais pas, mais je peux lui parler. Ça, c'est formidable. Hein. Le Dieu de l'univers accepte que je lui adresse des paroles. Et il peut entendre toutes nos paroles en même temps. Hein. Voilà. Nous, on ne doit pas parler ensemble en même temps, mais lui entend tout en même temps. Hein. Je peux être en communion avec lui dans ma chambre, à mon travail. Je peux rester connecté avec lui, hein, comme le Wi-Fi, on va dire. C'est gratuit, en plus, profitez-en. Dieu m'entend. Dieu m'entend. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand je pleure, quand je suis malheureux, Dieu m'entend. Quelqu'un m'écoute. Oh, le pasteur, il n'est jamais là, mais Dieu m'entend. Dieu m'entend et me comprend aussi. Ce n'est pas parce qu'il me comprend qu'il va être forcément d'accord avec moi, mais il comprend ma peine, ma douleur, ma joie aussi, parce qu'on ne va pas parler que de tristesse tout le temps. Puis en même temps, il a compassion de moi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui agissent à votre rencontre de cette manière-là. On devrait. Hein. En fait, je suis entre de très, très bonnes mains. Puis son amour m'offre la paix. Philippiens 4, 6 à 7 hein, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il veut nous offrir la paix. Évidemment, le texte continue, c'est conditionnel hein, par rapport à ce qu'on garde aussi dans notre tête, les pensées. Hein, si j'ai que des mauvaises pensées dans la tête, ça va être difficile d'être en paix. Mais il nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Vous inquiétez jamais, vous? Non. C'est vrai? C'est qui ment, là? Ne vous inquiétez de rien, mais il ne dit pas simplement d'être bêtement en train de s'inquiéter de rien, il dit, mais priez, demandez. Il y a une action quand même à faire. Au lieu de pleurnicher sur notre sort, eh ben on peut pleurnicher devant Dieu, on va dire, mais en sachant qu'il va aussi nous entendre et agir. Il suffit de lui dire nos besoins. À me dire, ah, mais des fois j'ai demandé, mais il n'a rien fait. Son plan, c'est son plan, il a son temps, etc. Il veut peut-être m'apprendre à avoir la foi. Ah oui, tiens, qui a une grande foi ici? Une trop grande foi, je vais dire. Personne, hein? Je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et ben, des fois, il faut tirer un peu sur l'élastique hein, de cette foi, pour qu'elle se tende, et que justement, ben, on croit, même si les choses ne se présentent pas tout de suite. Vous imaginez si Dieu répondait tout le temps, tout de suite? C'est le supermarché, déjà, hein? Hein? Mais en même temps, où est ma foi? Il n'y a plus besoin de foi. On n'a pas à s'inquiéter, et on l'a dit, c'est un acte de foi. Est-ce que Dieu peut gérer tous mes problèmes? Moi, ouais, vous hésitez quand même. Hein. Problème de voiture? Problème de travail? Problèmes sentimentaux? Je sais pas, il y a un tas de problèmes qu'on peut avoir. Mais oui, Dieu peut gérer tous ces problèmes, tous. Ça lui passe pas de problème. La question, c'est est-ce que je vais lui dire mes problèmes? Est-ce que je vais les poser, ces problèmes-là? Et est-ce que je vais partir en lui laissant mes problèmes, plutôt qu'essayer de les gérer moi-même ou à lui expliquer comment il faut faire? Ça, on est des fortiches aussi dans ce domaine-là. Et il dit, faites ça, ne vous inquiétez de rien, et demandez avec action de grâce. Il est tordu, Paul, hein, il m'énerve. D'abord, je ne dois pas m'inquiéter. Là, j'ai un gros problème. Et en plus, il faut que je fasse ça avec action de grâce. Il est fou. Il faut que je dise merci à Dieu avant même que j'ai vu la réponse, quoi. Ben oui. En fait, si vraiment je dépose mon fardeau à Dieu, je le ferai avec foi. Et si je le fais avec foi, forcément, je peux dire déjà merci à Dieu parce qu'il va agir en conséquence. Hein. Alors là, c'est pas l'action de... Hein, c'est pas quand vous êtes dans le problème, vous allez sourire bêtement. C'est dans le cœur. L'action de grâce, là, pour moi, c'est simplement des remerciements par avance parce que nous croyons que Dieu va réellement agir. Et quand on est face à des situations et des difficultés et qu'on est dans cette attitude-là, je suis en paix. C'est ça la paix du Seigneur. Et je peux être en paix dans les pires des situations. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que je le vis? Ah, les hommes. Puis son amour au quotidien nous donne aussi l'assurance d'arriver à bon port. Hein, dans Romains 8, 38 à 39, il dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il fait une longue liste quand même, hein, pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a vraiment rien ici-bas, dans le ciel, ou le diable, je ne sais pas quoi, qui puisse me séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire donc que je suis né de nouveau et j'arriverai à destination. Sauf si vraiment je suis un gros tordu, mais quand même. Dieu est le seul qui nous justifie. Hein, quand je me sens accusé, peut-être par le diable ou par des gens, moi je dis c'est Dieu qui m'a justifié, c'est lui qui m'a déclaré juste, c'est lui qui m'a sauvé. Tu peux parler en long et en large, je m'en fiche complètement. Moi, j'ai un papier à côté du trône, hein, il est écrit là, Emmanuel est sauvé. Voilà. Si tu veux monter jusqu'au trône pour l'arracher, vas-y, mais là, fais gaffe, il y a Dieu hein, qui est là. Mais c'est ça, être justifié et avoir l'assurance de cette justification. Hein. Notre salut est assuré à cause de Christ et pas à cause de nos œuvres ou à cause de notre vie chrétienne parfaite. Hein. C'est à cause de Christ uniquement. Et pour cela, j'arriverai à bon port. Puis au quotidien, son amour nous donne aussi une véritable espérance. Hein. Nous pouvons nous réjouir en espérance. Romains 12, 12, hein. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous. Non ? Bon, d'accord. Alors ne souriez pas en espérance. Soyez patient, ah, mince, ça continue mal, hein. Dans l'affliction, persévérez dans la prière. Mais si je pense à mon avenir, à mon espérance, je peux qu'être heureux, non ? Il faut faire des petites cures, des fois, d'espérance, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, s'arrêter, je ne sais pas, aller dans les bois et penser juste à votre avenir. Arrêtez de penser à vos souvenirs, à vos soucis, etc. Pensez juste à ce qui vous attend. Les soucis, de toute façon, hein, c'est juste pour un temps. L'avenir, c'est pour l'éternité. Et donc, honnêtement, des fois, on se complaît dans notre malheur alors qu'on pourrait s'en sortir facilement. Je sais qu'il y a des moments difficiles, j'en ai aussi eu, mais il faut de temps en temps sortir la tête de l'eau et penser à ce qu'il m'attend dans l'avenir. Après tout, qu'est-ce qu'on craint sur cette terre? Si je dois mourir, comme disait Paul, hein, ben, je suis pressé d'aller voir Dieu, hein, je suis pressé d'aller voir Christ. Si on veut me tuer, ben, voilà, ben, la seule chose qui va arriver, c'est que je suis devant Christ. Bon, ça vaut le coup, quelque part, même si ça fait mal avant, mais bon. Mais nous, nous savons où nous allons, parce qu'on a un avenir avec Dieu. Et ça, c'est tout l'amour de Dieu encore pour chacun d'entre nous. Chaque jour, Dieu démontre son amour pour moi, chaque jour. Ce serait bien un jour qu'on fasse une semaine où chacun ait un papier hein, à la maison et tous les soirs il note et puis qu'on partage tout ça un dimanche matin. Ce serait marrant pour voir l'amour de Dieu dans quel domaine, dans les situations de vie. Hein. Et si je suis conscient de cela, alors je suis heureux. Je suis bêtement heureux, je suis désolé de le dire, mais si j'ai vraiment conscience de l'amour de Dieu, je suis vraiment heureux. Et puis si on s'intéresse à l'amour de Dieu dans l'avenir, parce que Dieu se plaît avant, pendant et dans l'avenir, hein. Il y a d'abord le reste de ma vie à vivre, hein. Même si le monde des fois peut m'effrayer. Il est dit dans le psaume 121, Dieu veille sur moi parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, mais il ne garde pas que Israël, hein, il garde tout le monde. Hein. Donc il ne s'arrête jamais de dormir. Non, il ne s'arrête jamais de travailler. Je ne veux pas dire ni résine non plus. Il ne dort pas, voilà. De toute façon, il n'a pas besoin, je pense. Mais ça veut dire que même quand nous dormons, il est là, il veille sur nous. Parce que c'est vrai que des fois, hein, on se laisse aller tranquillement dans le sommeil, mais qu'est-ce qui peut arriver pendant les quelques heures où on dort? Bon, on n'y pense pas, heureusement, sinon on ne dormira plus. Mais Dieu veille sur moi à ce moment-là. Donc il s'agit de ne pas s'inquiéter encore une fois. De toute façon, hein, Luc 12, 25 dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Quand vous vous inquiétez, vous croyez que vous allez vivre plus longtemps? Généralement, c'est plutôt l'effet inverse. Hein. Si vous inquiétez vraiment trop, ça détruit le corps et ça détruit votre âme. Mais ce n'est pas parce que vous inquiétez que d'un seul coup, Dieu va agir plus vite, mieux, différemment. Ça ne sert à rien, en fait, de s'inquiéter. Pourquoi on n'arrive pas à le vivre, ça hein? Pourquoi on n'arrive pas à le vivre? Mais pleinement, parce que je pense qu'on fait l'effort avec le temps, mais vraiment ne plus s'inquiéter. Il faut faire confiance au Seigneur. Hein? Et je pense que des fois, pour aller de l'avant, il faut regarder en arrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte? Ben, c'est fort de l'expérience que j'ai eue avec Dieu jusqu'à présent, de voir qu'il m'a sorti dans des situations difficiles des fois, ben, que je peux avancer, tout simplement. Et devant une nouvelle expérience ou une épreuve, ben, il m'a aidé avant. Il va arrêter là? Ben, je suis dans le péché, donc il ne va pas m'aider. Ou alors je suis dans telle situation, ou je suis rétrograde, je ne sais pas. Non. Le Seigneur, alors, des fois, il permet hein, qu'on soit dans des situations pour qu'on change d'attitude. Mais si je n'ai rien fait, le Seigneur est toujours avec moi. Mais il faut des fois regarder en arrière, se souvenir de ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'on oublie tellement vite que Dieu m'aime. Tellement vite. Hein. Quand on reçoit, alléluia, gloire à Dieu. Et trois jours après,
J'ai rien. »
On murmure de nous. Notre lendemain est entre les mains de Dieu. Et lui, je pense qu'il permet des fois les situations pour qu'on reste humble. Parce que si on avait tout, toujours, tout le temps, ben, je ne serais jamais humble, je pense. Ouais. C'est pas qu'il le fait pour nous embêter, mais on a besoin de rester dans une certaine attitude pour suivre le Seigneur. Et on a besoin de beaucoup d'humilité. Naturellement, on n'est pas humble, et généralement, on est plutôt orgueilleux. Hein. On tourne autour de notre ego. Mais lui permet des fois des situations pour qu'on revienne à cette humilité qu'il veut garder en nous. Et puis son amour dans l'avenir lointain, hein, ça c'était le passage de notre vie, mais si on pense à l'avenir, ben on aura la joie d'avoir cru en Dieu un jour. Hein. Si nos doutes nous tiraillent aujourd'hui, ben, un jour, ben, on verra Dieu. Quelqu'un écrivait en parlant d'une grande foi, il disait « L'autre soir, alors que je rentrais chez moi après une lourde journée de travail, je me sentais abattu et douloureusement déprimé, un peu comme nous hein, tous les jours quand on rentre à la maison, lorsque soudain ce texte me vint à l'esprit « Ma grâce te suffit ». J'arrivais à la maison et je cherchais dans l'original. Enfin, il me parvint de cette façon « Ma grâce te suffit ». Et je dis « Bien sûr, Seigneur ». Et j'éclatais de rire. Je n'avais jamais compris le rire d'Abraham jusqu'alors, la joie qu'il avait de suivre Dieu. Ce passage rendait l'incrédulité tellement absurde. « Oh, mes frères, soyez de grands croyants. Un peu de foi amènera votre âme au ciel, mais une grande foi amènera le ciel à votre âme. » On peut vivre tous les jours déjà dans le ciel d'une certaine manière, si on ne connaît pas tout, mais on n'a pas besoin forcément d'une grande foi, mais se souvenir de la parole de Dieu, de ce que Dieu m'aime. Un jour, nous le verrons, et tous ceux qui sont se moqués de nous, ben, tant pis, hein, nous on a cru, et nous on verra Jésus-Christ. Moqueries des incrédules laisseront la place à la vue. Ils verront leur erreur, et nous, enfin, on n'aura plus besoin d'avoir la foi, mais on verra Jésus-Christ. Vous avez déjà imaginé Jésus ? Il est grand, il fait combien de taille ? 1m80 ? Je ne sais pas si c'est vraiment ça le plus important. Hein ? Mais un jour, on le verra face à face. À la fois, ça nous réjouit, et à la fois, ça me terrorise. De savoir que là, je vais être devant lui. Alors, j'ai cru en lui durant toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs, certainement, mais là, je vais être face au roi des rois. Parce que maintenant, on diminue Jésus. Hein. C'est mon petit seigneur à moi, hein, mon petit pote, mais c'est quand même le roi des rois. Hein. On a tendance à l'oublier. Et ça sera une joie de vivre dans la présence de Christ, hein. Une vie parfaite, parce qu'il n'y aura plus de péché, plus aucun péché. Vous ne pécherez plus jamais. J'aurais voulu avoir l'église comme ça, hein. Ça aurait été plus simple. Hein. Non ? Non, mais une église comme ça, sans péché, tout le monde s'aime vraiment, authentiquement, il n'y a plus aucun défaut chez personne, et puis finalement, on loue Dieu parfaitement. Ce serait pas génial, ça ? Bon, on le fera dans l'éternité, mais bon. On aura un corps glorifié, on sera transformé, on n'aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de crainte de la mort, puisqu'on ne mourra plus de toute façon. Voilà ce qui m'attend, mon espérance. Hein. J'aurai une nouvelle adresse. On va changer vos passeports. Je ne sais pas si c'est encore valable là-bas aujourd'hui, mais je connais déjà en fait le nom de la ville dans laquelle je vais habiter. Vous connaissez-vous ? La Nouvelle Jérusalem. Ah oui, vous avez déjà une adresse en fait. Hein. Des fois on s'inquiète, mais non, vous avez déjà un lieu où vous allez habiter pour l'éternité. Alors, il y a le reste de la terre, évidemment, on ne sait pas exactement comment tout ça va se faire, mais nous savons où nous allons. Puis, nous aurons une nouvelle proximité avec Christ, parce que si aujourd'hui, on est déjà intime avec Dieu, ben là, on sera vraiment intime de intime. On sera comme dans le jardin d'Éden, de nouveau. Hein. Bonjour, Jésus. Ça va, aujourd'hui ? Ouais. Je ne sais pas si on va se serrer la main, je ne sais pas si on va un matin ou un soir, mais ça sera complètement différent. J'ai une question théologique. Vous me laissez d'abord, hein, j'ai beaucoup de questions. Hein. Alors, c'est moi qui délivre, hein, mais vous, voilà, c'est ce qui va arriver. Et puis, on aura une gloire, je dirais, imméritée. C'est là toute l'expression de l'amour de Dieu pour moi. Il m'offre non seulement le salut, mérité pas du tout, à cause de mon péché, et en plus, il va partager tout son héritage avec nous, et cette gloire avec nous. Ça calme quand même, non ? Et nous, on croit qu'on mérite tout des fois, mais... Mais lui veut partager cette gloire éternelle avec nous. Évidemment, ça sera lui, le roi des rois, mais on sera là autour de lui et on partagera cette gloire. Merci Seigneur de nous aimer à ce point-là. Hein, moi, je vais vous embêter terriblement et je vais vous demander de m'aimer, de me sauver et ensuite de partager tout votre héritage avec moi. Je vois vos têtes déjà, vous n'allez pas le faire. Hein. C'est pas sympa. Mais c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est ce qu'il fera pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Comment ne pas fondre en larmes devant tant d'amour quand on prend le temps, hein, franchement d'y réfléchir. Comment ne pas être ému devant l'amour de Dieu parce que c'est pour moi qui crois, c'est pour vous qui croyez aussi cet amour de Dieu. Si nous croyons que Dieu ne nous a pas encore assez aimés, hein, parce que des fois on se dit, ah, t'aimes plus François que moi, hein, ou t'aimes plus Victor, ou moi tu n'aimes jamais. On est comme ça. Hein. Si on pense que Dieu ne nous a pas assez aimés, ben, attendez d'entrer dans la gloire. Attendez d'entrer dans la gloire, et à ce moment-là, je crois qu'on va se mettre tous par terre et on va demander pardon à Dieu. Hein. Ah, j'ai pas considéré l'amour que tu avais pour moi tous les jours. Mais bon, voilà, Dieu sait qu'on est des hommes, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, et il nous aime malgré tout cela. Pour terminer, pour conclure, hein, alors comment nous plaindre devant tant d'amour? Pourquoi on se plaint? Pourquoi on murmure? Et on continuera même après ce message, hein. Je continuerai à murmurer. Mais on est là, voilà, faible homme, alors qu'on a tant d'amour devant nous. Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on prend le temps de souvenir de cet amour de Dieu pour moi? C'est bien de lire justement la Bible et de voir comment Dieu a aimé les différentes personnes, les peuples, etc. Mais il m'aime de la même manière. On est enveloppé de l'amour de Dieu dans le passé, au présent et dans l'avenir. On va faire dans l'exemple. On est enveloppé en fait de cet amour de Dieu. On est des enfants gâtés. Hmm? Ouais, ouais. Pour une fois qu'on peut être gâté. On se laisse gâter. Hein? Non, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment gâté par Dieu. Alors, si on est vraiment des enfants gâtés, plutôt de réagir comme les vrais enfants gâtés, on va dire, qui deviennent égoïstes, et, hein, bah, à nous d'être plutôt reconnaissants et de dire merci au Seigneur pour tout l'amour qu'il nous donne tous les jours. Puissions-nous aussi être reconnaissants dans le sens où bah, l'amour que je connais de Dieu pour moi, bah, j'ai envie de le partager avec autrui, avec quiconque veut bien... entendre, et vous savez, dans ce monde, il y a besoin vraiment d'amour. Hein, parce que le monde est loin de connaître et l'amour, on va dire, simplement au sens humain, mais l'amour de Dieu. Alors là, je crois que si on pouvait le présenter à certains, ils l'accepteraient tout de suite, parce qu'ils en ont besoin. Il y en a qui le rejettent, bon, ça c'est leur responsabilité. Mais faisons connaître l'amour de Dieu à autrui, et ça, c'est en présentant évidemment sa parole à quiconque veut bien l'entendre, et aussi par notre exemple. Si nous sommes là où Dieu nous a placés avec de la joie rayonnant, malgré des fois les circonstances, ben les gens vont dire, mais t'es bizarre, hein? Ben oui, moi je suis aimé de Dieu. Est-ce que tu as envie d'être aimé de Dieu? On va prier. Seigneur, comment, oui, je l'ai dit, ne pas tomber en larmes et se prosterner devant toi, Seigneur, en voyant tout l'amour que tu as pour nous. Tout cela, c'est intellectuel bien souvent, et on le sait, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous imprégnons notre cœur vraiment de cet amour? Nous souvenons de tout l'amour que tu avais avant même que nous existions, de l'amour que tu as pour nous aujourd'hui au quotidien et dans tous les détails de notre vie et de cet amour et de cette gloire qui nous attend, Seigneur. Comment te remercier? Je ne pense pas que tu nous le demandes, mais tu veux simplement que l'on soit reconnaissant, que l'on se souvienne de cet amour chaque jour, que te disions merci par action de grâce ou autrement. Et Seigneur, je pense que tu veux aussi que nous partagions cet amour avec quiconque veut bien l'entendre, entendre parler de toi, entendre parler de la foi, Seigneur. Merci pour cet amour et apprends-nous à grandir dans la connaissance de cet amour. Apprends-nous aussi à nous laisser transformer par toi pour justement t'aimer encore davantage, Seigneur. Apprends-nous à t'adorer pour cet amour. On a parlé de ce monde qui ne connaît pas cet amour et nous prions qu'il rencontre Jésus-Christ et puisse aussi t'accepter et prendre cet amour sur eux. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.